Cette radio est formidable. Bisous Marine, bonne émission.
Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région.
Bienvenue sur la radio de tous les raccords. Et vive le Tour de France, ici les 13h. Au taquet se retrouve sur ici.fr pour podcaster l'émission. Rendez-vous demain à midi pour l'heure Ma France. C'est Marine Logeni.
Ici, avec Marine Logeni, Ma France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ma France, une France qui passe le bac, la philo, c'était ce matin. Notre avenir dépend-il de la technique? La vérité est-elle toujours convaincante? Vous avez 4 heures, on ira à la sortie des épreuves. L'actualité marquée également par le conflit Israël-Iran, 4 nuits consécutives d'échanges de tirs. Nous verrons quelles sont les conséquences possibles chez nous. On fera également un détour par le Salon du Bourget qui ouvre ses portes. Aujourd'hui, c'est la 55e édition. Dans le Journal des Régions, on vous emmènera sur la tombe du peintre Paul Cézanne à Aix-en-Provence et dans le Périgord où votre radio ici a encore fait des miracles. Enfin, je vous propose une escapade à bicyclette. On reçoit à midi à 13h15 Philippe Coupy, l'un des pionniers du tourisme à vélo, co-auteur du guide du routard La France à vélo. 50 itinéraires pour découvrir notre France autrement. Le plus jeune à 8 ans, c'est un record dans l'histoire. Le plus âgé, 78 ans. Coup d'envoi, je vous le disais ce matin, du bac avec la traditionnelle épreuve de philo pour 724 000 candidats. Noémie Bonin, vous avez recueilli les premières impressions de quelques-uns et quelques-unes.
Oui, c'est désormais l'heure de se raconter entre amis comment l'épreuve s'est passée.
Je dois être honnête, les deux sujets, je voulais pas les avoir. J'avais zappé les deux dans les vidéos de révision. Mais ça va, je crois que j'ai réussi.
Oui, ça va.
J'ai fait vérité. J'ai fait vérité absolue, vérité personnelle et vérité partielle.
Vrai et bien.
T'as fait 3 parties ?
Trop bien.
Les élèves avaient le choix entre travailler sur la vérité, donc la technique en voie générale, et la liberté ou l'art en voie technologique. Mathis, par exemple, a choisi la dissertation « Sommes-nous libres en toutes circonstances ?»
Personnellement, j'étais assez surpris parce que c'était la liberté qui était tombée. Je me suis dit « c'est un peu le sujet basique ». Je me suis dit « ils ne vont pas quand même le refaire ». Mais bah, c'est retombé.
Ça vous a inspiré?
Franchement, oui, j'ai fait 7 pages. Comme référence, j'ai mis la pierre de Spinoza. Donc en fait, c'est quand on lance une pierre et que la pierre prend conscience en plein milieu de la chute, elle pense qu'elle est libre alors qu'en fait, on lui a imposé une trajectoire. Du coup, j'ai utilisé ça.
Bon, vous aurez reconnu la référence au philosophe Spinoza. Heureusement que l'épreuve n'est pas à l'oral. Désormais, la plupart des candidats vont prendre le temps de souffler un peu, manger et puis se plonger dans les dernières révisions pour l'épreuve de spécialité demain après-midi.
Noémie Bonin qui recueille donc les impressions des candidats à Dreux à la sortie des épreuves tout à l'heure. Un hommage national et une cérémonie organisée à Laon ce matin en mémoire des 2 sapeurs-pompiers volontaires retrouvés morts mardi dernier dans la ville de l'Aisne après l'effondrement d'un immeuble en feu. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Un moment de recueillement est également organisé cet après-midi à la mairie. Le procès de l'affaire Adecco s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il va durer jusqu'au 27 juin. Le géant français de l'intérim, victime d'une gigantesque fuite de données en 2022, 14 personnes sont jugées, notamment pour escroquerie et blanchiment. Une audience qualifiée d'hors norme par le ministère de la Justice, compte tenu du nombre de victimes, près de 70 000. Les suites judiciaires de l'accident de car mortel dans la Sarthe. L'un des chauffeurs est mis en examen. Vendredi, le car s'est couché sur l'autoroute A81 à 2 degrés, faisant 4 morts et une cinquantaine de blessés. Le pronostic vital des blessés les plus graves n'est plus engagé. 300 000 visiteurs sont attendus tout au long de la semaine au Bourget, je vous le disais, près de Paris, pour le plus grand rendez-vous mondial de l'aéronautique et du spatial organisé tous les 2 ans. Les 4 premiers jours, place aux professionnels uniquement, avant l'ouverture au grand public, vendredi, samedi et dimanche. Près de la moitié des 2400 exposants présents sont français, grands groupes ou simples PME. Et le secteur, Raphaël Ebenstein, ne semble pas connaître la crise.
Jusqu'ici, tout va bien pour la filière aéronautique et spatiale française, alors que plane pourtant la menace de droits de douane américains qui pourrait pénaliser des dizaines de fournisseurs de Boeing installés dans l'Hexagone. Guillaume Faury, président d'Airbus et du GIFAS, qui regroupe les industriels du secteur, semble plus inquiet par les risques d'alourdissement de la fiscalité en France dans le prochain projet de loi de finances.
Nous, on est en croissance, on embauche, on augmente la surface de notre activité industrielle en France. Ce secteur, il est vital pour la France. Quand on a quelque chose de vital, on s'en occupe et on le protège.
La filière, qui revendique 222 000 salariés, prévoit 25 000 recrutements cette année et le Salon du Bourget, l'occasion idéale de s'adresser aux jeunes, notamment au travers de l'Avion des métiers, un gigantesque espace de 3000 mètres carrés. Guillaume Bourdeloup, le directeur général du salon.
Les ressources humaines, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, donc il faut recruter, il faut former, et donc on trouvera tout ça sur l'Avion des métiers, où seront présentés une vingtaine de métiers de l'aéronautique et du spatial.
Avec l'objectif de parvenir en outre à féminiser davantage le secteur, une centaine d'entreprises participeront même vendredi à une journée spéciale afin d'attirer des jeunes filles vers les métiers d'ingénieurs et de techniciennes.
Raphaël Ebenstein au Salon du Bourget, où des stands israéliens d'armement sont interdits d'accès sur décision du gouvernement. On l'a appris ce matin, ils exposaient des armements offensifs comme ceux susceptibles d'être utilisés à Gaza. L'actualité à l'étranger marquée donc par l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Après des tirs pour la quatrième nuit de suite depuis vendredi, au moins 24 personnes ont été tuées en Israël. Plus de 220 côté iranien. Farhad a 25 ans et habite à Kermanshah, c'est dans l'ouest de l'Iran. La peur au ventre, il redoute une guerre sans fin.
Bien sûr, j'ai peur. Peur calme, sourde, du matin jusqu'au soir, qui rend chaque moment plus lourde. Mais malgré tout ça, les gens essayent de continuer leur vie. Les écoles sont ouvertes, les magasins sont ouverts, les bus roulent. Mais dans toutes les têtes, il y a cette question qui tourne. Jusqu'à quand ? Tout le monde ressent que ça pourrait devenir encore pire. On ne sait pas ce qui nous attend et c'est ça le plus dur.
Et pendant que les missiles sont tirés, un sommet du G7 tente de trouver une issue au conflit. Un conflit qui pourrait avoir des conséquences sur le prix de nos carburants, car la fermeture du détroit d'Ormuz est envisagée par l'Iran. Or, c'est par là que passe l'essentiel du pétrole et du gaz que nous consommons tous les jours. Dominique Moisy, géopolitologue de l'Institut Montaigne, est plutôt rassurant de ce côté-là.
Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, parce qu'elle aurait des conséquences économiques pour l'Iran lui-même qui seraient catastrophiques. C'est, il punit la communauté internationale, mais il se punit lui-même au moment où la situation économique de l'Iran n'a jamais été plus catastrophique. Le régime est profondément impopulaire auprès de sa population. C'est une forme de suicide interne. On ne peut pas exclure ce scénario. Il ne me paraît pas le plus probable.
Et on ajoute que l'Iran appelle les pays européens à mettre fin aux attaques d'Israël. L'Agence internationale de l'énergie atomique a condamné fermement les frappes contre des sites nucléaires. Après les élèves de terminale qu'on a entendus au début de ce journal, place aux élèves de seconde qui entament leur premier jour de stage aujourd'hui. Stage obligatoire, non rémunéré, de 2 semaines, du 16 donc au 27 juin. Un créneau choisi par le ministère de l'Éducation pour lutter contre l'absentéisme des élèves sur la fin juin. Sauf qu'il est difficile à dégoter ce stage et qu'il suscite aussi de très nombreuses critiques, comme ici en Picardie, Paola Guzzo.
À l'image de Sohan, elle va faire son stage de seconde dans une école maternelle par dépit.
J'aime bien les enfants, mais en vrai, maîtresse, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'était comme ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Noah aussi a subi cette période de recherche de stage. Il en cherchait un en laboratoire.
J'en ai fait au moins 50. J'ai été refusé de partout. Ça démoralise. On est moins motivé. Ouais, on perd facilement espoir et confiance.
S'il a fini par trouver, les autres ont tous dû faire jouer leur réseau avec plus ou moins de succès.
Moi, j'ai fait mon stage au notaire de mon village. C'est la mère d'une de mes copines.
Au Cléa, c'est une garderie un peu. En fait, j'ai cherché et tout, mais tout le temps j'étais refusé. Et là, c'est ma sœur qui a trouvé parce qu'elle a travaillé là-bas.
Tu vas aller un peu à reculons tous les jours là à ton stage.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ces témoignages ne surprennent pas Rémi Baudry. Il est co-secrétaire du syndicat Sud Éducation 80.
Comme la réforme, elle a été faite dans la précipitation l'an dernier et qu'il n'y a pas eu de retour. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est utile ou quoi que ce soit? Les tares qu'il y avait l'an dernier, on les retrouve cette année.
Des élèves qui ne trouvent pas ou qui se débrouillent selon leur carnet d'adresse, c'est aussi une charge de travail en plus pour les professeurs. Alors au lieu d'un stage bâclé, il préférerait décaler la fin de l'année.
Mais l'idée, c'est écouter au moins les personnels, ce qu'ils ont à dire, de quoi ils ont besoin. On pourrait aussi faire cours ou se focaliser sur les élèves qui ont des besoins particuliers. C'est quelque chose qui manque de sens, en fait, pour les élèves et pour les personnels aussi.
L'an dernier, en France, 4 élèves sur 10 avaient trouvé un stage de seconde.
Paolo Guzzo, ici à Picardie.
Ici, l'actu au cœur des territoires, Ma France.
Quand une vidéo d'ici Périgord sauve un vigneron de la faillite, c'est la belle histoire du jour qu'on vous propose pour débuter ce journal des régions. Yannick Lescaut cultive des vignes au domaine de Coutances. Son vin blanc sec a été primé fin mai par le jury du concours des vins de Bergerac. Très ému par ce prix, il a tout raconté au micro d'ici Périgord. Avoir failli tout arrêter il y a 6 mois et son témoignage a cartonné sur Facebook. Depuis, Gwendoline Langlois, les commandes se bousculent.
Yannick ne redescend pas de son petit nuage. D'habitude, il vend 60 bouteilles par mois. Là, c'est plus de 300 en une semaine.
C'est énorme, mais on se demande ce qui arrive, quoi. C'est comme quelqu'un qui fait une chanson et qui devient une star le lendemain, où il y a tous les médias qui lui tombent dessus.
Son téléphone et son mail le saturent. Il a tellement de commandes qu'il a dû mettre sa fille Pauline à contribution.
On étiquette le sec, le vin qui a eu la médaille. Là, on voit qu'il a pas mal de choses à faire entre les gens qui veulent venir acheter du vin, plus les vignes, plus sa propriété chez son patron. On vient l'aider un peu.
Elle finit pile à temps. Une dizaine de clients vient d'arriver pour visiter le chai.
Bonjour.
Le groupe fait le tour des vignobles de Dordogne. La vidéo de Yannick a convaincu Patricia et ses amis d'ajouter le domaine à leur liste.
L'histoire de ce vigneron, elle est touchante. Son émotion, elle est palpable et c'est chouette aussi. Et puis on découvre de belles choses.
Conquis par la dégustation, les touristes belges repartent avec une centaine de bouteilles dans le coffre. À ce rythme, le vigneron va vite être à sec.
Le problème, c'est que j'avais mis en bouteille ce vin-là depuis le mois de novembre. Il reste à peu près 4000 bouteilles.
Avec ce succès, Yannick espère enfin voir le bout de ses problèmes financiers.
Gwendoline Langlois, ici Périgord. Vous retrouvez la vidéo sur notre site ici.fr. Il est 13h10. Vous écoutez Ma France, c'est l'heure du journal des régions et l'heure du bac philo aussi. On vous en parlait il y a quelques minutes. Le bac, le bachot, qui n'a plus trop la même symbolique aujourd'hui. Depuis la réforme de 2021, les élèves n'ont plus que 4 épreuves et 80% des terminales le décrochent. Alors direction le Vaucluse à Grandbois, chez une famille où on passe le bac depuis 3 générations. 3 femmes, 3 visions différentes, Anne-Livia Tolinki.
Le bac n'a plus du tout la même valeur. En 1973, Mireille n'avait besoin d'aucun autre diplôme pour trouver du travail.
J'ai quitté l'école au mois de juin. J'ai commencé à travailler le 1er septembre de la même année.
Impensable dans les années 90.
Je pense qu'à mon époque, un bac, ça faisait rien. Si tu voulais être secrétaire, il fallait un BTS.
Mais il y avait un avantage, reconnaît Emma. Le bac, à ce moment-là, ouvrait toutes les portes.
Les facs, on pouvait faire ce qu'on voulait. On choisissait l'endroit, on choisissait les matières. C'était libre. Alors qu'aujourd'hui, dès la troisième, on te dit quel spé tu vas vouloir prendre pour prendre des options. Ça réduit le champ des possibles.
D'autant qu'il faut désormais se positionner avant le bac, en formulant des vœux en ligne sur Parcoursup. Chiara a été acceptée dans une école de communication à Aix-en-Provence. Mais dans sa classe, certains attendent encore de savoir où ils seront à la rentrée.
Forcément que c'est une forme de plus de pression que la pression du bac en elle-même.
Je trouve ça horrible. T'as vu tes amis, t'en as vu certaines pleurer.
On pleurait parce qu'on n'avait pas le bac, parce qu'on le voyait affiché devant le lycée. Et qu'aujourd'hui, on pleure parce qu'on a des résultats Parcoursup qui nous emmènent pas là où on veut aller.
Et pour encourager sa petite fille, Mireille a un geste bien à elle. Une tradition familiale restée intacte au fil des générations. Serrer le pouce pour porter chance.
Il faut mettre le pouce à l'intérieur de la main. Voilà, comme ça. Donc, pas un instant, vous pensez à la personne qui passe son examen.
C'est, paraît-il, encore plus efficace que de croiser les doigts.
On a beaucoup de pouces serrés en écoutant ce reportage, Anne-Livia Tolinki. Bon courage à tous les candidats, bien sûr. Direction le pays de Cézanne, dans le journal des régions à Aix-en-Provence, sur la tombe du célèbre peintre qui ne passera plus totalement inaperçu. La mairie a décidé de baliser le chemin jusqu'à la dernière demeure de l'artiste. La sépulture discrète était parfois difficile à trouver pour les touristes. Elle fait désormais partie du circuit pédestre dédié à Cézanne, Marion Bernard.
Pas très loin d'un bassin, au coin de l'allée 6 et 7, la tombe de Cézanne, surmontée d'une croix et d'une grande stèle, se cache presque sous les grands cyprès. Amandine Janer, adjointe au funéraire de la ville d'Aix.
Là, vous pouvez la voir, mais je la trouve, somme toute, assez classique. Il y avait quelques panneaux qui étaient affichés, mais le cimetière est assez quand même grand et conséquent, donc il pouvait se perdre.
D'autant que la dernière plaque explicative du site avait été volée en 2019 et que le nom de Cézanne n'est pas le seul sur la tombe. Marie-Pierre Sicard est déléguée au patrimoine de la ville.
Cette tombe, c'est la famille Cézanne Conil, c'est-à-dire la sœur de Cézanne. Rose était mariée avec un notaire qui s'appelait Maître Conil et qui finalement avait acheté la propriété de Bellevue que Cézanne a peint plusieurs fois sur des tableaux.
Désormais, devant la tombe, un panneau avec la signature du maître et le chemin depuis les deux entrées, balisé de clous en métal doré, gravé d'un grand C et du blason d'Aix. 30, puis une série de 3, alignés pile devant la sépulture pour bien marquer l'endroit. Ils poursuivent ceux du circuit Cézanne en centre-ville et comme eux, ils font des envieux. Certains de ces clous posés dès le mois de février dans le cimetière ont déjà été volés, mais remplacés.
Marion Bernard, ici Provence, et les photos, vidéos de ce parcours vers la tombe de Cézanne sont à voir sur ici.fr. On termine ce journal des régions en vous ouvrant l'appétit si vous n'êtes pas encore passé à table. Au menu, une galette saucisse, mais pas n'importe laquelle, la plus longue galette saucisse jamais fabriquée, évidemment. Ça se passe en Bretagne, et pour atteindre un tel record, tout a été millimétré, Juliette Penn.
Autour de la table rectangulaire de 120 mètres de long, on s'active.
Allez les filles !
Main gantée, Véronique et Anne-Laure se tiennent prêtes.
Nous allons rouler rapidement la galette au-dessus de la saucisse. On attend qu'elle arrive. Ça y est, voilà nos saucisses.
Allez, saucisse du haut. Une fois que c'est posé, vous les laissez faire, nous on avance. Allez, allez.
Il faut faire attention que la galette ne se casse pas, qu'on roule tous en même temps. Il faut être coordonné.
Un travail collectif.
Un travail collectif qui demande même l'intervention de vrais chirurgiens, oui, pour suturer chaque saucisse de 3 mètres entre elles. Et pour cela, Thomas est bien équipé.
Ciseaux, porte-aiguille, fil de suture stérile, résorbable, pour avoir une vraie saucisse de 110 mètres et pas des tronçons de saucisse posés les uns à côté des autres.
Idem pour la galette fabriquée en bande, parce que ce record est très sérieux. Le président Jean-Yves Claudel vise le Coref Book, tout nouveau livre des records bretons pas encore sorti.
Cette longueur-là, nous, elle va être vérifiée par le géomètre expert. C'est lui qui va attester la longueur.
La longueur de la galette saucisse en une pièce que nous avons réalisée aujourd'hui. 113
mètres et 16 cm. Reste plus qu'à la déguster.
Eh ben, ça donne envie. Juliette Penn, ici Armorique.
Ici, avec Marine Logeni, Ma France.
Vous écoutez Ma France, il est 13h15, une France que je vous propose de découvrir autrement aujourd'hui grâce à ces escapades à vélo, en famille, entre amis, la journée, le temps d'un week-end, un rythme tranquille ou moins tranquille. Notre invité du jour nous propose pas moins de 50 itinéraires. Bonjour Philippe Coupy.
Bonjour.
Alors vous êtes le spécialiste du tourisme à vélo, on peut dire ça ?
Oh, je suis pas le seul.
Vous êtes modeste, mais vous êtes l'un des spécialistes.
Ouais, je suis un des pionniers, on va dire.
L'un des cofondateurs de France Vélo Tourisme, co-auteur d'un guide du routard que j'ai entre les mains, La France à vélo, et que vous nous présentez aujourd'hui. Alors, je viens de le dire, c'est 50 escapades, pour ne pas faire fuir les auditeurs, auditrices, c'est tout niveau.
C'est plutôt facile dans cet ouvrage. C'est plutôt sur des véloroutes ou des voies vertes, donc des parcours aménagés, bien fléchés, sans grande difficulté, plutôt même accès famille pour une grande partie d'entre eux.
Alors c'est quoi la différence entre véloroute, voie verte ?
Alors la véloroute, en fait, c'est l'équivalent des chemins de grande randonnée, des GR. Vous voyez, donc c'est un grand parcours. Mm-hmm. Et les voies vertes, en fait, c'est une partie d'aménagement qui est vraiment en dehors de la circulation. On appelle ça en site propre. Donc c'est en dehors des routes ou à côté des routes. Souvent sur des anciennes voies ferrées, sur des le long des canaux, par exemple.
Le canal du Midi, c'est...
Alors, le canal du Midi, oui, effectivement. Alors, l'ensemble, c'est le canal des deux mers.
D'accord.
De Bordeaux jusqu'à Sète. Et donc, c'est une véloroute parce que ça comprend des bouts de voies vertes le long du canal, mais pas que. Voilà. Donc, voilà, la véloroute, c'est un grand parcours, un grand itinéraire.
Alors, la France à vélo, c'est découpé en plusieurs régions, c'est ça ?
Oui, là, on a simplement choisi une cinquantaine de balades qui sont faciles, qui sont super intéressante, où il y a plein de choses à découvrir. Donc c'est un peu notre best-of, tout simplement. Il y en a plein d'autres, et d'ailleurs on a fait d'autres ouvrages d'un autre format avec des reliures à spirale et des petites cartes très très bien faites au 100 000e. Mais donc là c'est juste un mode d'inspiration finalement.
Et qu'est-ce que ça change de visiter une région à vélo ?
Ça change tout.
C'est-à-dire tout.
Ça veut dire que...
On prend le temps, déjà.
On prend le temps, on s'arrête quand on a envie. On n'a pas l'impression d'être un envahisseur qui arrive avec son SUV, qui vient se garer devant la boulangerie où tout le monde est en train de sortir. Mmh. On est plutôt bien accueilli,
bien
en général.
Reçu.
On est plutôt bien reçu. Et on a le temps de flâner, de s'arrêter, de voir des jolies petites choses qu'il y a un petit peu partout dans notre magnifique France.
Et on peut combiner le train et le vélo ? Ça, c'est une
Alors,
bonne option ?
On peut essayer, effectivement. Moi, je le défends beaucoup. Et dans toutes ces balades, on donne toujours les indications des lignes de train. Mais ça reste quand même...
Les TGV, par exemple, c'est difficile.
Alors, les TGV, ça dépend des lignes. Mais sur l'ouest, on peut mettre 2 à 4 vélos, mais il faut réserver à l'avance. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nouveau système de réservation, justement, qu'a mis en place la SNCF à la suite des demandes de nombreuses associations cyclistes. Et donc, ça fonctionne déjà depuis quelques années. Et il y a un nouveau site de réservation pour les trains régionaux, parce que la bonne astuce, en fait, c'est de combiner plusieurs TER, les trains express régionaux, qui,
d'accord,
eux, sont gérés par les régions, qui sont
et
plus sensibles.
Aussi.
Moins cher, alors il ne faut pas être pressé, il faut emmener une bonne lecture avec soi. Mais effectivement, on a des systèmes de réservation maintenant. Le nouveau système s'appelle Vélo à bord.
D'accord.
Très facile, veloabord.fr.com. Et là, vous pouvez réserver en fait une série de trains TER. Alors, vous allez mettre peut-être 4 heures pour faire, j'en sais rien, Besançon, Lyon,
ouais.
Parce que vous allez changer une ou deux fois de train, mais vous allez le faire super tranquillement.
Alors, pour avoir expérimenté, hein, je parle un peu de mon expérience personnelle, les TER vers la Normandie. Alors, en revanche, là, il y a beaucoup moins de place pour les vélos.
Alors, ils ont changé, hein, c'est une polémique, voilà, c'est compliqué. Non, parce qu'il faut aussi mettre, par ailleurs, des voyageurs dans les trains, des poussettes, tout ça. Enfin bon, il y a des heures où il y a vraiment, objectivement, beaucoup de monde.
Mmh.
Mais si, les nouveaux trains Normandie, justement, permettent les trains nomades.
Vous êtes normand, c'est pour ça que
je suis normand, vous pouvez y aller. Et donc, non, la région soutient ça et les nouveaux matériels permettent d'emmener des vélos. Alors, pas assez, bien sûr, on pense que ça pourrait faire beaucoup mieux. Alors, si vous voulez vraiment prendre le vélo avec le train, il y en a un que je vous conseille vraiment, c'est le train La Loire à vélo.
D'accord.
Ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur le sujet de la piste La Loire à vélo. Et là, il y a un train tout l'été, de juin à septembre, avec 20 à 30 places pour les vélos. On peut mettre même des tandems, des remorques, etc.
C'est pour parfaitement... découvrir tous les châteaux de la Loire.
Vive La Loire à vélo.
Alors, votre ouvrage, c'est un peu d'effort, mais surtout aussi beaucoup de réconfort avec les bonnes adresses sur le chemin. Vous avez compilé le long de ces itinéraires des campings, des cafés, des restaurants. Ça fait partie du plaisir, tout ça.
Alors, effectivement, c'est une façon de faire du vélo où on n'est pas le nez sur le chronomètre. Hein. Encore une fois, on prend le temps de s'arrêter et de se restaurer. Et c'est aussi une occasion de découvrir des spécialités régionales, des ambiances qui sont vraiment uniques un petit peu partout, dans tous nos endroits, nos villes et nos villages. Et donc ça, c'est vraiment l'ADN du guide de routard, c'est les bonnes adresses.
Il y a de plus en plus de gens qui choisissent cette option pour les vacances. Vos guides, ils ont de plus en plus de succès. Est-ce qu'ils font bouger les choses justement au niveau des infrastructures?
Alors, écoutez, j'étais le week-end dernier, dimanche de la Pentecôte, et dimanche lundi de la Pentecôte, on célébrait les 20 ans de la Loire à vélo.
Mm-hmm.
Donc il y avait une super belle organisation avec un événement qui s'appelle la Madja, qui avait 700 jeunes gens, c'est plutôt Génération Z hein, qui était conviés. C'était une grande randonnée festif sur 3 jours. Et le président de la région était présent, François Bonneau, de la région Centre-Val de Loire, en fait. Donc on a fêté les 20 ans de la Loire. Et effectivement, lui nous a dit vos guides, d'un, ils sont très bien faits. Et en plus, ça fait venir du monde, ça nous rend service.
Ça correspond aux attentes de cette Gen Z, comme vous dites.
Ouais, c'est ça.
Donc, mode de transport écologique aussi. Évidemment.
Alors, il y a ça derrière, bien sûr. Ça, c'est pas forcément ce qu'on dit tout de suite, parce qu'on parle d'avant tout de plaisir, de découverte, etc. Mais il y a quand même, et ça me concerne aussi en particulier, c'est le fait d'avoir un bilan carbone assez intéressant.
Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient partir cet été sur les routes de France à vélo, Philippe Coupy, on a le spécialiste en la matière d'invité, on va en profiter. Quels sont vos conseils à donner ? Bien préparer sa monture en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Donc, il faut bien s'équiper. C'est comme on n'imagine pas faire une grande randonnée en tongs. Hein. Quand on part faire une grande randonnée en vélo, il faut un bon vélo déjà. Donc, pas forcément un vélo exceptionnellement cher, mais un vélo de bien réglé, bien adapté à votre morphologie. Il faut des sacoches pour mettre tout son petit barda. Et puis, il faut voyager de léger. Ça, on s'en aperçoit assez vite, c'est-à-dire que la garde-robe va être assez condensée.
Pour laver ses vêtements ça. Dans une rivière en bord de route,
c'est
faire
ça.
Ses
non,
choses au soleil.
Jusque-là, mais non, en tout cas, on n'emmène pas de superflu.
Alors là, on parle du vélo en vacances. On s'en sert aussi pour aller au travail de plus en plus, c'est entré dans les mœurs.
Alors moi, je pense qu'il y a une vélorution. Hein, on voit bien dans toutes les grandes métropoles françaises, notamment. Là, je suis arrivé tout à l'heure de Nantes par la gare d'Austerlitz. Maintenant, on traverse intégralement Paris en longeant la Seine.
Vous êtes venu à vélo jusqu'à la maison de la radio.
Oui, j'ai même mes sacoches qui sont cachées pas bien loin. Et quand on voit la rue de Rivoli, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même incroyable. Quoi. C'est pareil à Nantes, c'est pareil à Lyon, c'est pareil à Bordeaux, c'est pareil dans plein de grandes villes. Donc il y a vraiment quelque chose qui change et l'usage du vélo se fait au quotidien.
Et la cohabitation
Bah, la cohabitation, je dirais qu'il y a de plus en plus d'infrastructures, de pistes qui sont séparées de la circulation. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, il faut que les automobilistes s'habituent à avoir des cyclistes et que les cyclistes respectent les automobilistes et le code de la route.
Et notamment les feux rouges. Alors, vous parlez du vélo en ville. Je vous propose de partir à la campagne. On dit souvent qu'il faut absolument une voiture en Creuse, mais certains creusois se sont mis au vélo, même si la pratique reste un peu marginale. Elle se développe, Marie-Jeanne Delpaule.
Alors, c'est parti.
Ce dérailleur, c'est celui du tout nouveau vélo de Marin. Il a 42 ans, il est paysagiste, il habite et il travaille à Guéret et il a récemment vendu l'une de ses deux voitures pour s'offrir ce vélo cargo électrique.
C'est un vélo qui est un tout petit peu plus long qu'un vélo normal. Et entre la roue et le guidon, il y a en fait une caisse pour le transport de notre fils, pour l'emmener à l'école. Et puis également pour faire des courses. Enfin voilà, c'était ça aussi l'idée. C'est d'avoir un vélo au quotidien, par tous les temps. Il a un gabarit un tout petit peu plus important qu'un vélo classique. Enfin, les automobilistes, en tout cas, ils font plus attention.
Rouler en se sentant en sécurité, c'est en effet tout l'enjeu pour Laurent. Ce retraité guéretois de 62 ans n'a lui aussi plus qu'une seule voiture et elle reste au garage le plus souvent. Depuis 2 ans, c'est le vélo qu'il utilise tous les jours.
C'est écologique, c'est économique et c'est sportif. Puis moi, j'aime bien être au grand air. Eh bien, c'est bien, mais il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça que je suis en gilet jaune, que j'ai des avertisseurs lumineux pour vraiment me faire voir.
Comme il habite sur les hauteurs de Guéret, Laurent a opté pour un vélo électrique acheté en promo 600 euros, un montant largement amorti selon lui.
Marie-Jeanne Delepaule, reportage ici Creuse. Philippe Coupicot, auteur de La France à vélo, le guide du routard. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre ça? Est-ce que la vélorution a aussi lieu à la campagne?
Je crois que progressivement, effectivement, ça se contamine un petit peu partout, grâce encore une fois aux infrastructures qui ont été réalisées, qui sont en cours. Il y en a vraiment un peu partout. Grâce au vélo assistance électrique aussi, c'est vrai que ça a permis de remettre des gens sur le vélo, des gens de tous les âges, de toutes les conditions physiques. Et ça permet de se dire, je peux aller au boulot qui est à 8, 10, 12 kilomètres, ce qu'on ne ferait pas forcément avec un vélo musculaire.
Un vélo musculaire, on dit ?
Musculaire.
D'accord. Et de passer comme ça du vélo musculaire au vélo électrique, après, est-ce que c'est facile de revenir au musculaire ? Qu'est-ce que vous conseillez ?
Je vais vous dire, les vrais cyclistes, entre guillemets, dont je fais partie, apprécient moyennement le vélo à essence électrique, parce qu'en fait, on est freiné à 25 km/h. C'est la réglementation, en fait, on n'a pas le droit de dépasser 25. Mm-hmm. Et donc, quand vous faites du vélo musculaire, vous allez allègrement à 30, 35, un peu plus. Voilà. Et là, vous vous sentez freiné. Donc, c'est un peu frustrant.
On parlait de cohabitation entre les voitures et les vélos. Il y a aussi entre les vélos électriques et les vélos musculaires.
Oui, il y a un peu de ça.
On se fait un peu, pas klaxonner, mais on se prend des petits coups de sonnerie quand on ne va pas assez vite.
C'est ça.
Donc, votre ouvrage, La France à vélo, nos plus beaux itinéraires, il y en a 50. Pour terminer, votre préféré ?
Je vais encore vous parler de la Loire à vélo parce que c'est le grand classique, mais c'est un must, c'est magnifique.
Allez, c'est le must, la Loire à vélo, c'est le conseil de Philippe Coupy. Merci d'avoir été avec nous, co-auteur donc d'un guide du routard, La France à vélo chez Hachette.
Ici, ma France.
C'est pas vrai, le rendez-vous anti-arnaque de Ma France Audrazo, une publicité mensongère fait des ravages en ce moment sur Facebook. Il s'agit encore d'une pub pour des pilules minceurs. Cette fois, il utilise l'image du comédien Artus et de Tony Parker.
Oui, je suis tombée dessus ce week-end et je vous avoue que j'ai été un peu affolée de voir les dizaines de commentaires en dessous des internautes dupés qui veulent à tout prix commander la soi-disant pilule miracle. Sur cette pub, que voit-on ? On voit Artus, le comédien, très aminci. Il tient à la main une boîte de Nourix. Je vous lis ce qui est écrit. Artus commercialise désormais sa pilule sans exercice dans toute l'Europe. Il déclare qu'il n'a jamais été aussi mince. Une capsule de Nourix équivaut à 8 km de jogging. Alors, petite mise au point. Artus, le vrai Artus, avait fait une vidéo sur ce sujet, c'était l'an dernier.
Je ne fais aucune pub pour des pilules amincissantes sur Facebook. C'est pas moi. D'ailleurs, ça me fait chier qu'ils utilisent ça, mais c'est pas moi. C'est pas moi.
Voilà, comme ça c'est clair. Cette pub mensongère, elle fait très fort. Il y a même un petit lien en dessous qui renvoie vers un faux article de Télé Loisirs.
Et que dit cet article ?
que la gélule en question a obtenu le plus gros contrat de l'histoire de Qui veut être mon associé, l'émission sur M6. Et c'est là que j'en arrive à Tony Parker. Tony Parker a fait partie du jury de l'émission, ça c'est vrai, c'était la saison 4. Et dans cet article, on a une photo truquée de lui en train de tenir une boîte de la fameuse pilule. Vous êtes très très nombreux à m'avoir envoyé cet article en me demandant si c'était vrai. C'est faux, il y a bien le logo de Télé Loisirs, mais regardez l'adresse en haut, ce n'est pas Télé Loisirs, l'adresse est complètement fantaisiste.
Aude Razo, c'est pas vrai, votre rendez-vous anti-arnaque tous les jours dans Ma France et dans Ici dès 5h et également sur votre appli ici.fr. Je vous souhaite un très bel après-midi sur votre radio Ici en musique avec Michel Berger, la groupie du pianiste.
Votre radio locale France Bleu devient ici.
Ici, on vit au même endroit, donc on a des choses à se dire.
Ma santé, mon porte-monnaie, mon boulot, ma popote, on en parle ?
Ici, au même endroit, au même moment.
Ici, c'est des bons plans, entre amis.
Vous écoutez Ici.
Ici.
Le média qui vit comme nous.
Comme nous.
Ici.
Alors, monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant ?
Oui, non, mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais je...
Le problème, c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse, j'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Lorraine.
Actu locale, musique et bonne humeur.
soir entre ses draps roses. Elle est là, plus que tout elle est, c'est beau comme elle est. Elle est là, c'est fou comme elle est, c'est beau comme elle est.
Pianiste, le célèbre morceau de Michel Berger. Et eux aussi font partie de nos incontournables et vont bien nous occuper notre soirée télé. Le groupe ABBA est au cœur du programme de France 4 aujourd'hui. Le documentaire ABBA, les coulisses derrière la légende, revient ce soir sur leur triomphe à l'Eurovision en 74, mais pas que. Hein. Le phénomène ABBA sera développé sous tous les angles, sociétal, intime, avec des proches ou encore à l'aide d'archives. Un regard inédit sur ce succès planétaire est déjà un bon plan pour occuper la soirée. Et bien entendu, d'autres suggestions arriveront avec les coulisses TV de Patrice Gascoin tout à l'heure. Pour l'instant, la musique est au programme avec le nouveau Giulia Falcone, Ma Dolce Vita.
Le cœur à l'étroit, aujourd'hui tout va trop vite, les jours se ressemblent, alors je rêve d'instants que je ne connais pas.
crépite qui m'appelle. Elle n'arrête pas, me rappelle et me rappelle. Me rappelle sans cesse que si je la délaisse, ah oh oh, elle fera un malheur, oh oh oh. Elle tuera mon bonheur, oh 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 oh. Elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Non. Elle n'arrête pas, me rappelle et me rappelle sans cesse que si je la délaisse, oh oh, elle fera un malheur, oh oh, elle tuera mon bonheur, oh oh oh, elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi.
L'affaire Louis Trio sur Ici Lorraine et le Dico Nico à présent utilisé de façon classique, un mot défini chaque jour par Nicolas Turon avec quand même une plume humoristique et une touche mosellane essentielle au micro de Frédéric Vialet, suite de la série autour d'un célèbre poète messin.
Bonjour à tous et bonjour Nicolas Turon.
Bonjour à tous.
C'est un dictionnaire qui est ouvert aujourd'hui à la lettre V comme Verlaine. On continue notre série, on est sur la fin de saison, mais on continue, on lâche rien avec Verlaine.
Il ne reste plus que deux lundis pour le faire mourir. Je vais essayer d'avancer le plus vite possible. Nous étions restés à l'été 1867.
Oui.
Verlaine persuade sa mère de voyager jusqu'à Bruxelles dans le simple but de croiser son idole, qui est le plus grand écrivain français de tous les temps, Frédéric.
Oui.
Un barbu, bisontin, qui aime bien la gonzesse.
Victor ?
Oui, Victor Hugo. Eh bien, figurez-vous que Verlaine parvient à le rencontrer.
Ah, ça
y est. Il passe une soirée inoubliable avec le génie et sa femme.
Avec le maestro.
Oui, exactement. Et le 31 août du même été, il est aussi l'un des pauvres hères peu nombreux qui suit le corbillard de Charles Baudelaire. Paul a beau publier un recueil qui deviendra un chef-d'œuvre après sa mort, les Fêtes galantes ne sont tirées qu'à 350 exemplaires et paraissent dans l'indifférence générale. La vie du poète semble devoir se cantonner à la Sainte Trinité, ainsi définie par Troya, dont je lis la biographie, tohu-bohu du monde littéraire, visite au bordel et beuverie entre copains. C'est un peu la même que pour vous, Frédéric, même si vous ne fréquentez pas le tohu-bohu du monde littéraire. Il manque d'ailleurs de surimer notre Verlaine, quelques-uns de ses potes, parce qu'il a l'alcool si mauvais qu'on planque les couteaux passer le deuxième gorgeon.
Ah
ouais, vraiment. Un soir, ivre mort chez sa mère, il s'empare du sabre de son défunt père, militaire, et sable les bocaux de formol qui contiennent les fœtus de ses petits frères.
Non.
Souvenez-vous aussi, si.
Oh là 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 là.
Bière, péquet, absinthe et bitère, à défaut de l'ivresse du succès, Verlaine vit à plein le succès de l'ivresse. C'est à se demander comment fait son sang mauvais pour circuler dans ses artères. Et pourtant, son cœur bat. Contre toute attente, alors qu'il traîne un faciès ingrat et une conduite indigne, que la seule femme qu'il n'a jamais aimée jusqu'alors est sa cousine Elisa, souvenez-vous, qui est décédée, il tombe sous le charme de Mathilde Mottet de Fleurville, la sœur d'un collègue.
Oui.
C'est souvent comme ça, hein, encore à notre époque.
Oui.
Une gamine aux joues d'enfant et aux regards de femme. Le temps qui sépare la première rencontre entre Paul et Mathilde et leur mariage sera la seule accalmie dans la vie tempétueuse du poète. Il ne boit presque plus, se conduit convenablement, il s'apprête. Fin juin 1870, le Zig a signé son contrat de mariage. Ça vous dit quelque chose, 1870?
Oh oui, ça me dit quelque chose.
Oui, ça commence à pétarader du côté de la Prusse.
Ça barde.
Ouais. Mais là encore, et donc il signe son contrat de mariage au début de l'été, mais il faut patienter jusqu'à l'église et la cérémonie nuptiale qu'il attend avec impatience.
Tu m'étonnes.
Parce que là, coup du sort, eh ben, la cérémonie nuptiale est retardée par une épidémie de variole qui touche d'abord la future épouse, puis sa mère. Verlaine se désespère, s'il savait. La guerre contre les Prussiens fait rage et sa ville natale, Metz, sera bientôt allemande.
Il faudra attendre la fin du 20e pour qu'elle revienne, Mathilde.
Exactement, bravo.
Je vous en prie, c'est offert. On se retrouve demain ?
On se retrouve demain, je vous emmène à la Maison Blanche.
Ah,
mais celle d'Ars-sur-Moselle.
À demain.
Ici Lorraine.
Enfin, comme on a dit, tu restes encore 8 jours. Le temps de vous trouver un petit nid pour votre grand amour. Chose à dire, pas trop de conseils à donner, mais tu devrais réfléchir, les larmes t'as déjà donné. Tu veux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Je ne t'avais pas promis mes plus belles années, elles sont loin derrière. Mais le passé, c'est le passé. L'important aujourd'hui, bien sûr, c'est ton bonheur. Mais je le vois mal parti avec cet oiseau de malheur. Tu veux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Comme on a dit, entre nous c'est net. Tu seras l'ami de mon ami, je serai le fer avec. Et si je tiens pas la route, je sais où vous trouver. La nuit ou l'insomnie fera que j'ai envie de vous parler. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais. Tu peux préparer le café noir.
ICI.
ICI.
ICI Lorraine.
J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Qui prend la forme de mes mains quand je caresse. Que je n'ai plus peur pour un rien qu'il disparaisse. J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Qui se pose au bout de mes lèvres lorsque j'embrasse. Que sa petite musique lumière me cloue sur place. Avant, être heureux simplement. Si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu, simplement être heureux. Si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu, simplement être heureux.
Concert il y a quelques semaines grâce à ICI Lorraine, Pascal Obispo en duo avec Jordana Engie, j'étais pas fait pour le bonheur. Et pour rester dans la bonne humeur, la playlist ICI Lorraine continue de vous accompagner avec le tube de Gilberto Gil à suivre. Bel après-midi.
9h-11h, bienvenue chez vous.
Les histoires de votre vie.
Salut, bonjour.
Ilan Malka. Marc Grandmontagne.
C'est mieux de bosser dans le public ou de bosser dans le privé? Ah, vous y attendiez pas à celle-là. Hein. Eh ben, venez tout nous dire, venez nous parler de vos expériences et puis on comparera demain 9h.
Moi, je vais essayer de travailler dans le public. Puisque demain, il y a le grand forum de l'emploi de la métropole de Metz. Ça se passe à l'hôtel de la métropole, derrière la gare. On va tester tout ça à 10h.
Demain, dès 9h.
Bienvenue chez vous.
Recruter une personne de plus de 50 ans? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Ici Lorraine. Toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Ici.
desse palco. Minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. De bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda. Saberá lhe dar valor. Dá valor. Vale quanto pesa, pra quem preza o louco. Tambor, o tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. O inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno.
Je vais.